Vous êtes à l'écoute de France Culture, il est 20h, bonne soirée à tous. Nous retrouvons maintenant Multipiste par Philippe Delacroix, une coproduction du programme musical de France Culture et de l'INA GRM.
Multipiste. Bonsoir, merci de nous être fidèles après cette coupure de l'été. Multipiste, l'émission du programme musical de France Culture, réalisée en association avec le GRM, le groupe de recherche musicale de l'INA, est une émission qui traite du rapport musique et technologie sous tous ses aspects. Alors quoi de mieux, pour reprendre le rythme hebdomadaire de ces émissions, que de parler du GROA, le groupe de recherche optique et acoustique, qui travaille maintenant sous l'appellation TransArt Express. Ce groupe, fondé en 1979 par Jean-Robert Sedano, Solveig de Hory et d'autres musiciens, a d'abord rayonné dans le sud de la France, mais aussi à Paris. Une anecdote personnelle pour commencer. Un après-midi d'été à Paris, l'an passé, au Parc Montsouris. Le kiosque à musique est vide de musiciens, et pourtant, des sons et de la musique s'échappent de ce kiosque. Des gens s'agitent à l'intérieur du kiosque, des enfants jouent, et en se déplaçant, ils modifient la partition jouée. C'est ma première rencontre avec un dispositif extrêmement malin et efficace, les pavillons chromatiques, une réalisation du GROA. Ni petit IRCAM ou petit GRM, le GROA de Jean-Robert Sedano et Solveig de Hory fonctionne plus comme un laboratoire d'application musicale que comme un laboratoire de recherche. Fonctionnant avec zéro franc de subvention, résolument axé vers l'extérieur, Sedano et Hory installent aujourd'hui tout un tas de dispositifs dans des lieux comme les centres culturels, les musées, les kiosques à musique, ou plus récemment une installation permanente dans le château de la Tour d'Aigue, un village situé au cœur du Luberon. Les sons sont toujours liés à une interactivité entre le public et la mémoire d'un ordinateur. Entre les deux, une caméra vidéo analyse en temps réel les déplacements du public, qui génère donc directement la partition entendue. Solveig de Hory et Jean-Robert Sedano installaient leur machine à la Tour d'Aigue. Je suis donc allé leur rendre visite dans les souterrains du château où ils installaient leur PC. Dernière opération en date, c'est l'installation permanente dans la tour du château de la Tour d'Aigue. C'est un bel endroit puisqu'on y est, on est actuellement d'ailleurs dans les caves de ce château. Vous y installez un dispositif. On a juste derrière nous une console avec deux écrans. Un écran qui est donc la finalisation du pupitre qui est en dessous, si je ne me trompe pas. Et à gauche, un écran qui représente et qui montre ce que voit la caméra qui a été mise en haut de la tour. À quoi ça sert? Qu'est-ce que vous allez faire avec ça?
Alors c'est le matériel qui va faire fonctionner la promenade musicale, qui va fonctionner dans la cour du château de la Tour d'Aigue. Alors les deux écrans qu'on voit, l'un c'est effectivement l'écran de contrôle de l'ordinateur, le second c'est l'écran de contrôle de la caméra vidéo. L'écran de contrôle de la caméra vidéo montre l'espace qui va être utilisable par la promenade musicale. Du haut du donjon, là où est fixée la caméra, eh bien, on voit cet aspect du château, c'est-à-dire une découpe de murs, un escalier, différents passages. À l'intérieur de cet espace filmé du haut, eh bien, on va créer un parcours, c'est-à-dire un ensemble de lieux qui vont être générateurs de sons quand le public va se promener dans le château. Alors tous les sons qui vont être entendus dans la cour du château seront produits en direct par des synthétiseurs. On a là deux échantillonneurs, c'est-à-dire des appareils qui permettent de mémoriser des fractions de sons concrets.
Qui sont des mirages,
oui. Oui. Deux modules de synthèse FM, un micro-ordinateur qui sert à la gestion de l'espace sonore.
Qui est un Apple 2G.
Et un module d'amplification qui est destiné à ce que les sons soient entendus dans la cour.
Alors quand je suis arrivé, je vous ai vu très savamment noter le déplacement des ombres. Parce que donc sur la caméra elle regarde donc ce lieu du haut du donjon. On est dans le midi, le soleil tape très fort. Et c'est vrai que bien entendu l'ombre tourne comme dans n'importe quel lieu éclairé par le soleil et sur cette planète. Donc vous notez à chaque heure, et vous allez le faire là je crois maintenant, à chaque heure vous notez la position de l'ombre. Pourquoi par exemple?
Alors là... effectivement, la Terre tourne et on utilise un espace extérieur. Donc, l'aspect du lieu va changer au fil du temps. La promenade sonore est destinée à fonctionner toute la journée. Et il faut absolument qu'on sache dans quelles conditions de lumière il va falloir travailler. Et ça, on ne l'avait pas fait jusqu'à présent. Et on découvre l'aspect de luminosité qui change avec le temps et on note pour pouvoir ensuite placer dans les meilleures zones, c'est-à-dire les zones les plus éclairées, les différents sons qui vont constituer la promenade musicale. Bon, et l'ensemble du matériel que je viens de citer, en fait, il est activé par des logiciels qui contiennent les musiques et qui prennent les décisions. Et toute la clé du dispositif tient dans ces logiciels.
Et ces logiciels, c'est vous qui les avez faits?
Oui, bien sûr.
Extrait de la musique générée par le dispositif La promenade sonore pour La Tour d'Aigle dans le Luberon, Vent d'eau de Jean-Robert Sedano, Elsinone de Solveig de Horry.
C'est pas franchement parlé un véritable studio comme on l'entend couramment. C'était d'abord une structure administrative pour nous, donc pas un lieu fixe, pas un groupement formel et solide de personnalités, mais un lieu de rencontre de différentes personnalités pour monter des opérations précises. Le GROA, c'était pas à l'origine un organisme subventionné, donc il pouvait pas tenir le coût financièrement longtemps. Donc il fallait trouver des opérations, des actions à mener pour que le groupe de recherche existe.
D'où venaient les gens? De quel univers venaient-ils, les gens qui composaient le GROA?
La plupart sont des autodidactes, ce qui explique aussi la précarité de la situation de cette institution. Qui a un nom d'institution, mais c'en est pas une. Des aventuriers, en général, du son et de l'image. C'est pourquoi on a donné ce nom de groupe de recherche optique et acoustique. Les recherches du groupe, elles se sont trouvées à la frange de pas mal de recherches, et on a souvent pratiqué le mélange des genres au groupe de recherche optique et acoustique. Ça a donné différentes expériences, différentes productions, des sculptures sonores, des spectacles musicaux et visuels. Un peu plus tard, les pavillons chromatiques qui ont été installés dans pas mal de kiosques en France, à Paris notamment. D'autres spectacles cinétiques comme les mélotropes. Des sculptures.
Qu'est-ce que c'est que ça? Une petite définition en passant.
Alors, mélotrope, c'est en général un mobile. Donc quelque chose de plastique qui par définition donc bouge, et le mouvement du mobile est générateur de son. Voilà ce que c'est en deux mots le mélotrope. Donc là je parle surtout des créations qui ont été réalisées par le groupe de recherche optique et acoustique, mais il ne faut pas tellement se braquer sur le nom GROA, parce que la plupart du temps ça s'est résumé à deux personnes, c'est-à-dire moi et Solveig de Horry.
Musique pour le pavillon chromatique, Badinerie, suite en si mineur de Bach.
Si les gens sont autodidactes, ils ont quand même des passions communes pour se rassembler autour d'une appellation, donc le GROA. Solveig.
Oui, le GROA n'est pas né par hasard. Le Groa est né parce qu'il y a eu une rencontre entre des gens. Donc il y avait déjà au départ Jean-Robert et moi, et puis un autre musicien et des plasticiens. Et Jean-Robert, depuis un moment, avait travaillé déjà l'interactivité du son, c'est-à-dire qu'il avait exploité un dispositif qui permettait de générer des sons par rapport au mouvement des gens. Et ça avait intéressé beaucoup de gens qu'on avait rencontrés, notamment ce musicien et des plasticiens. Et à partir de cette découverte donc, qu'il avait faite, et puis de notre rencontre à tous, on a décidé de faire quelque chose, donc de commencer des actions. Et on a commencé nos actions dans la région Rhône-Alpes, à Annecy. Et c'est là que tout a démarré, c'est là que le Groa a démarré, donc, pour des actions bien précises. Ça s'appelait Chambre à musique, je m'en souviens, c'était en 80. Oui. Et Chambre à musique, c'était le premier espace sonore interactif qui avait étonné d'ailleurs pas mal de gens dans la région, où on faisait rentrer les gens dans une pièce obscure avec des mobiles qui bougeaient, et le déplacement des gens dans cet espace et dans ce mobile générait les sons.
Sarabande de Claude Debussy.
Quelle était la musique qui était pour vous celle que l'on devait entendre quand on rentrait dans ces dispositifs ?
En vérité, pour les sons qui étaient produits dans les chambres à musique, il y a une sacrée différence avec les sons qu'on peut produire actuellement. Les sons étaient, d'une part choisis, mais surtout fonction du matériel qu'on utilisait à l'époque. Je m'explique. Les systèmes qui étaient disponibles fin des années 70, c'était des synthétiseurs analogiques. Donc des VCO, c'est-à-dire des oscillateurs commandés en tension, et des systèmes de ce genre assez rudimentaires.
Qui sont, c'est vrai, complètement dépassés aujourd'hui.
Oui, qui sont complètement dépassés. À mon avis, la qualité du son qu'on produisait alors était vraiment pas terrible. Mais elle était compensée par l'effet probablement de surprise, c'est-à-dire que le public était baigné en fait dans un univers de son qui était directement produit par lui. Et à mon avis, c'était la première chose qui primait, c'est-à-dire l'expérience vivante du spectateur, du visiteur face au son qu'il était en train de produire. Donc c'était une grande découverte pour nous.
C'était plus sociologique que musical pour le coup.
Oui, mais la musique, c'est toujours sociologique. Hein, la musique s'adresse à des publics particuliers et on ne peut pas éviter la sociologie, à mon avis.
Oblique et parallèle de Jean-Robert Sedano.
De quel univers musical veniez-vous ? Qu'est-ce que vous écoutiez ? Qu'est-ce que vous faisiez ? Qu'est-ce que vous faisiez comme musique ? D'ailleurs, est-ce que vous en faisiez ? Et la question mérite d'être posée parce que vous n'y avez pas encore répondu.
Bon, à l'origine, donc, on avait créé une troupe de théâtre d'animation d'avant-garde et qui utilisait des choses assez spéciales présentées derrière le rideau noir. Et pour accompagner les visions qu'on proposait au public, eh bien, il y avait du son. Et le son, pour le faire, on utilisait en fait la technique qui est bien connue actuellement, c'est-à-dire la technique électroacoustique, qui consistait à prendre les sons concrets, les enregistrer, les découper, les coller bout à bout. Et avec ça, on créait un environnement pour les spectacles d'animation. Dans une des premières pièces que nous avions montées, le magnétophone qui était au centre de la scène et visible par le public tenait le rôle d'un personnage. Et une partie du son et du texte était jouée par le magnétophone avec des acteurs vivants.
Qu'est-ce que vous écoutiez comme musique à l'époque ?
On écoutait toutes sortes de musiques. En fait, je ne crois pas qu'on était influencé directement et spécialement par une musique ou par une autre. Enfin, oui, il y a qui étaient les minimalistes. Ça, oui, ça nous a... Steve Reich et Phil Glass pour l'essentiel. De même que Terry Riley. Ça nous a beaucoup influencé. Et d'ailleurs, ça correspondait bien au travail de musique interactive qu'on devait faire, puisqu'il faut tenir compte dans la musique interactive de l'évolution des gens, de leur déplacement et donc de la mise en boucle des sons.
Pour les musiques qui m'ont marqué dans les années passées, c'était les musiciens du groupe du GRM et notamment Parmigiani. Ces musiques m'ont toujours et me plaisent toujours énormément.
Si on veut continuer aussi par rapport aux gens du GRM, il y avait aussi d'autres gens qui nous ont intéressés comme Ferrari et Michel Chion parce qu'ils introduisaient dans la musique un certain aspect ludique qui nous plaisait bien.
L'humour.
Voilà, c'est ça. Oui.
Piecas Verdes de Solveig de Hori.
Qui est le vôtre, c'est un travail qui a comme paramètre extrêmement important le public. Oui. On rejoint donc l'aspect ludique et l'aspect interactif dont vous parliez. Comment ça se passe ? Est-ce que vous pouvez nous décrire, par exemple, un kiosque tel qu'il fonctionne ?
Oui. Le système du pavillon chromatique, c'est le nom du système qu'on installe dans les kiosques à musique. Je peux le décrire. La première chose la plus importante, c'est qu'il n'y a presque aucun matériel visible à l'intérieur du kiosque. Et pourtant, quand le public pénètre sur le podium du kiosque, et en se plaçant sur les cases d'un damier qu'on peint au sol, eh bien, la musique naît. Le système fonctionne de cette façon. Au sommet du kiosque, on place une caméra vidéo qui filme le sol. Autour de cette caméra vidéo, il y a deux haut-parleurs qui sont chargés de diffuser le son qui va être produit par le public. Le système fonctionne à partir de ces deux ingrédients, c'est-à-dire vision et production de son. La caméra voit le public, voit le kiosque. Si personne n'apparaît sur la surface du sol, eh bien, on n'a pas de son. Si une personne pénètre dans le kiosque et se place sur une des cases du damier, eh bien, on a une ligne mélodique qui va se faire entendre. Si une seule personne se déplace de case en case, elle va pouvoir entendre les différentes composantes de la musique. Si deux personnes pénètrent, eh bien, on aura un duo à deux instruments, par exemple, ou bien une mélodie un peu plus complexe. Si toutes les cases du damier sont occupées, eh bien, on a la polyphonie maximum. Qui peut être produite par le pavillon chromatique.
À partir de ce système extrêmement simple dans sa conception, mais qui nécessite un certain savoir-faire au niveau de la réalisation, vous vous êtes amusé à découper en tranches certaines pièces musicales, aussi bien du jazz que de la musique classique, ce qui fait qu'effectivement on a une écoute très différente d'une œuvre. Non seulement on a une approche de la musique qui est tout à fait étrange et mystérieuse puisqu'on ne voit rien mais on entend,
et on déclenche, on se rend bien compte qu'on déclenche soi-même quand on rentre dans ce kiosque, ou plutôt quand on marche sur ce kiosque, on se rend compte de ce qui se passe. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on a aussi une approche musicale différente. Swinging at the Daisy Chain de Count Basie, pièce retraitée pour le pavillon chromatique par Solveig de Hory et Jean-Robert Sedano.
Un autre pavillon chromatique qu'on a créé s'appelle 16 exquissons et il s'agit d'un damier à 16 cases comme toujours et chaque case produit, et quand on met le pied dessus, une interjection et donc c'est un espace complètement vocal, on échappe un peu à la musique accordée disons et les 16 exquissons jouent sur les hauteurs. C'est-à-dire que les interjections sont plus ou moins aiguës, plus ou moins graves, et forment des rythmiques. Alors quand on les combine, ça devient absolument incompréhensible, mais on a une rythmique qui se forme, quelque chose de très marrant, à mon avis. Et si on les entend une par une, évidemment, on comprend le sens de chaque interjection.
Extrait de la composition réalisée pour le pavillon chromatique vocal, 16 exquissons, de Jean-Robert Sedano, et Solveig de Hory.
Un autre type de création totalement différent, qui était de la musique pour bande et qu'on a diffusé dans une piscine. C'était donc de la musique subaquatique, a été créée en Espagne il y a quelques années déjà. Alors ça avait été composé, je dirais, de façon traditionnelle, c'est-à-dire avec magnétophone et son, enfin bon, une composition habituelle. Et le public était donc invité à se baigner et à entendre les sons dans l'eau. Et s'il levait la tête, il y avait un autre type de son qui était diffusé simultanément dans l'air. Voilà, on avait donc deux ambiances, une aquatique, une aérienne, dans la piscine qui était éclairée avec des projecteurs de théâtre, avec beaucoup de plantes qu'on avait mis sur les berges. C'était une expérience très très jolie.
Extrait du concert subaquatique et aquatique, musique d'eau de Jean-Robert Sedano et Solveig de Hory.
Thank you.
D'autres réalisations sont les mélotropes. Les mélotropes qui sont donc des mobiles ou des grands espaces plastiques dans lesquels également le public évolue. Ce sont des espaces qui ont 64 sources, en général 64 sources sonores distinctes. Donc on peut assimiler ça par exemple à un damier qui aurait 64 zones. Mais au lieu que chaque zone produise une source mélodique, dans le mélotrope, on génère un son à la fois, ce qui fait qu'on a plutôt un paysage sonore comme résultat sonore qu'une polyphonie.
Alors, un espace du type mélotrope, il y en aura un au mois d'octobre 88 à Beauvais, à l'association culturelle argentine LASCA.
Extraits musicaux pour les espaces mélotropes, trois paysages sonores de Jean-Robert Sedano et Solveig de Hori. Fin de ce premier épisode de Multipiste de rentrée, consacré donc au Groa. La semaine prochaine, l'été se poursuivant, nous entendrons et parlerons des musiques nouvelles et inclassables françaises et européennes avec Ferdinand Richard, que j'ai rencontré à l'occasion du festival Mimi à Saint-Rémy-de-Provence en juillet dernier. Une excellente manière de faire le point sur ces musiques dont nous parlons régulièrement ici et qui se situent à la charnière du rock, de la musique improvisée et de la musique contemporaine. Merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez nous écrire Multipiste, pièce 6255, Maison de la Radio, 116 Quai Kennedy, Paris 16e. À samedi prochain.
Multipiste par Philippe Delacroix, une coproduction du programme musical de France Culture et de l'INA GRM. Réalisation Evelyne Gayou, Daniel Terugi.